Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle, au service des citoyens et la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un homme politique, aussi un enseignant. Et notre invité est Dr Aboubacar Abdou Touré, président du Mouvement Social pour le Nouveau. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle aussi que vous êtes du M5, vous appartenez aussi à M5 RFP, tendance, on peut le dire, tendance Shogel Mega. C'est bien ça? Parce que le M5...
Je suis M5.
M5.
Tout court.
Tout court. Oui, c'est pour faire la différence entre... Ou bien vous êtes M5 tout court.
Je suis M5 parce que de mon point de vue, il n'y a pas de tendance sur Gagné, de tendance je ne sais pas qui.
Ok, donc pour vous, c'est le M5.
Voilà.
Donc on va parler justement de ça. On vient de... On profite pour présenter à nouveau les meilleurs à tous les Maliennes, à tous les Maliens qui nous regardent en ce moment, à tous les Africains. Voilà, qui nous regarde, nous veut les meilleurs, donc l'occasion aussi pour souhaiter un bon retour à l'incontournable, le maestro de la régie, Augustin Echou Bey, voilà, donc qui reprend après un petit congé, voilà, donc Augustin Echou Bey, le maestro de la réalisation, donc sambé, donc j'attends mon Selimafo, comme on le dit ici en langue bamanaka. Donc merci, c'était juste pour introduire le réalisateur Augustin Echou Bey. Docteur, vous portez bien, la fête s'est bien passée, ou vous êtes même, vous avez une casquette de chef de village, est-ce que vous avez fêté à Diré, non?
Alhamdoulilah, Dieu merci. Auzubillahi minashaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie une fois de plus pour cette invitation. Mais avant tout propos, il est de mon devoir de présenter mes voeux de les meilleurs de santé, de prospérité à l'ensemble du peuple malien, aux autorités, aux hautes autorités du pays, et particulièrement au personnel de Djoliba TV, singulièrement la direction générale, et aussi vous, le présentateur vedette de cette émission sans laquelle beaucoup de Maliens ne seront pas informés des activités qui se passent dans notre pays. Et aussi à l'ensemble de vos téléspectateurs de la sous-région, de l'Afrique et du monde entier. Effectivement, la fête, elle s'est très bien passée. Et nous prions Allah que nos vœux soient exaucés et que notre pays retrouve sa cohésion sociale, qu'il retrouve la paix, la sécurité, l'entente, le vivre ensemble, afin qu'on s'occupe du développement.
Ok, merci. Docteur Abdou Touré, on l'apprend à l'instant, des cadres des partis politiques ont été interpellés au domicile de l'ancien ministre Moustapha Dicko de l'ADEMA. Donc, les cadres, plusieurs cadres des partis politiques ont été interpellés à son domicile. Donc, l'information, on vient juste de l'apprendre. Et puis, on n'en sait pas grand-chose. Quelles sont les raisons de cette interpellation? Donc, pour le moment, plusieurs cadres, plusieurs leaders des partis politiques ont été interpellés au domicile de Moustapha Dicko. Donc, voici l'information. Un commentaire, même si on ne sait pas...
Non, je ne saurais commenter ce truc parce que je ne connais pas les raisons pour lesquelles ils ont été interpellés. Mais ce qui est clair en tant que politicien, leader politique... Si des collègues ont été interpellés, c'est que moi aussi, je dois dire quelque chose. Mais malheureusement, Je n'ai pas assez d'informations là-dessus pour pouvoir le commenter.
D'accord. Oui, parlons maintenant de votre actualité, l'actualité du M5. Le jour de la fête, vous avez présenté vos voeux aux Maliens. Vous avez aussi profité pour parler de l'état de la nation. Aujourd'hui, comment se porte le M5?
Alors, le M5, j'ai suivi beaucoup d'émissions, beaucoup de débats dans lesquels des individus on dit que le M5 est mort. Mort de sa belle mort. Depuis quelques années. Moi, de mon point de vue, je ne partage pas ce point de vue. Du fait que vous savez que le M5, c'est un mouvement qui a vu le jour en juin 2020. Le M5, à l'origine, était constitué essentiellement de trois entités. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, CEMAS de Mamoudou Diko et AMK. Essayons de caractériser un peu ces trois entités qui sont à l'origine de la création du M5. Le M5, le FSD, composé essentiellement de partis politiques, d'associations et de personnalités en termes de cadres, qui souvent font de la réflexion stratégique, politique, idéologique, pour que notre Mali puisse avoir un soubassement à partir duquel on peut élever le développement. AMK, c'est une association aussi de cadres, mais je peux dire, le MK n'a pas une masse derrière lui. Contrairement au FSD, contrairement à la CEMAS aussi, qui mobilisait. Donc, ceux qui étaient dans la rue, c'était les militants du FSD et les militants de la CEMAS. C'est eux qui brandissaient les pancartes ici. C'est eux qui ont marché sous le soleil. C'est eux qui ont fait... Mais comme le FSD et AMK sont regorgés de cadres, c'est eux qui assuraient la réflexion stratégique. Voilà comment est né le M5. C'est après le mouvement du 5 juin, la sortie du 5 juin. C'est en ce moment qu'on a baptisé le M5, le mouvement du 5 juin. Et comment est-ce que les autres qui aujourd'hui font beaucoup de bruit, c'est après cette date du 5 juin qu'ils sont arrivés au M5. Je m'explique, il faut que les choses soient très claires.
Allez-y, ouais.
À la suite d'une réunion au siège de CEMAS, on a décidé, compte tenu du fait que on remarque qu'aujourd'hui, nous avons le bon bout, donc il faut essayer d'élargir le mouvement. En faisant quoi? En allant vers les autres pour les convaincre à nous rejoindre. C'est ainsi que le président Choguel et les autres vice-présidents ont décidé de former des petits groupes pour aller démarcher, par exemple, en Comali Doro, de Mme Sikadia Tousso, de l'association de Maître Bakili, des différents syndicats que vous connaissez qui font partie du M5. Moi, personnellement, on m'a désigné pour aller démarcher Maître Bakili. Et c'est l'ancien maire de la commune 6 et moi qui avons démarché Maître Bakili pour rejoindre le M5. Okay. Donc aujourd'hui, si je vois que ces gens-là se sont retirés du mouvement, ils sont partis, on ne peut pas dire que le M5 est mort. Comme l'a dit l'autre, c'est un arbre. Okay. Un arbre qui grandit, si les feuilles mortes tombent. Okay. Et l'arbre continue son chemin.
D'accord.
Voilà la situation. Il ne faut pas que les gens viennent interpréter les choses autrement.
Maintenant, est-ce qu'on peut...
Excusez-moi.
Allez-y.
Au cours d'une interview de quelqu'un, j'ai écouté comme quoi que Choguel a été désigné président quand ils ont quitté le siège de la CEMAS. Okay. Non. Choguel, depuis les trois premiers mois, Choguel était le président, comme on l'appelle, permanent du mouvement. Donc on ne vient pas dire que c'est au siège de Bitar qu'il a été nommé, désigné comme président du... Ce n'est pas vrai.
D'accord, donc voilà. Vous tenez à donner cette précision. Oui, donc si l'autre tendance ou si les personnes impliquées dans la marche du M5 voudraient chacun venir donner son, sa part de vérité, hein, si chacun peut venir donner sa part de vérité ici, hein, dans ce qui concerne la lutte du M5-RFP, docteur Aboubacar Abdou Touré, mais aujourd'hui, est-ce que le M5, hier vous l'avez dit, le M5... était mobilisé, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire véritablement, vous dites que le M5 n'est pas mort, est-ce qu'aujourd'hui le M5 a toujours une force ou une base solide?
Le M5 que je connais, en dehors de SEMAS qui est parti, est constitué essentiellement des partis qui ont créé le M5, qui existe toujours, mais on n'est pas dans la posture de faire des mouvements, nous ne sommes pas dans la posture de faire sortir des gens, nous ne sommes pas dans cette posture parce que cette transition, c'est notre transition, nous l'accompagnons jusqu'au bout. Donc je ne vois pas de problème par rapport à ça.
D'accord. Parlons maintenant du mémorandum, le mémorandum du M5-RFP. Et dans ce mémorandum-là, vous avez fait beaucoup de griefs. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire encore de ce mémorandum? Lequel mémorandum a coûté quand même la prison à un de vos présidents, Boubacar Karamoko Traoré?
Monsieur Mega, le dossier du mémoire du mémorandum judiciarisé, je ne souhaite pas porter de commentaires par rapport à ça. Mais ce qui est clair, ce qui est dedans, de mon point de vue, ne sont pas des griefs contre quelqu'un. C'est un rappel, tout simplement. C'est un rappel. Donc je ne souhaite pas faire des commentaires sur un dossier qui est déjà dans la main de la justice. Donc, je laisse cette démarche-là, cette activité
à la justice de
ce magistrat.
D'accord. Maintenant, quel est aujourd'hui, quel est l'état de vos relations, le M5 et puis la transition? C'est vrai, le Chogel, président du M5, président du comité stratégique, est toujours le président. Voilà. Et aujourd'hui, quel est l'état de vos relations? Parce que le mémorandum, il est critique quand même. Hein? C'est comme s'il montre que le pacte d'honneur, comme vous le dites, n'est pas très respecté par votre allié.
Alors, ce n'est pas parce qu'il est critique que nos rapports ne vont pas continuer à exister. Ce n'est pas parce qu'il y a des contradictions entre vous et moi et qu'on ne doit pas échanger pour faire sortir de la lumière. C'est dans les contradictions que je pense qu'on peut avancer, comme le disent les dialecticiens, les marxistes. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de contradiction majeure entre la transition et le M5. C'est des incompréhensions que je pense, si nous nous asseyons autour d'une table pour, dans l'intérêt du Mali, échanger, nous trouverons une solution. Sinon, vraiment, ce n'est pas des problèmes fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, demain, on va dire que bon, c'est fini, on va prendre la route, la rue, pour protester contre le non. Nous sommes avec la transition.
Vous allez toujours soutenir la transition.
Tout à fait. Tout à fait. Je l'ai toujours dit autour de cette table. C'est mon point de vue. Et c'est le point de vue de l'ensemble.
Ceux qui pensent qu'à un moment donné, puisque vos positions ne convergent pas, il y aura une rupture, donc se trompent.
Non, lourdement. Okay. Parce que, de mon point de vue, ce n'est pas dans l'intérêt du Mali aujourd'hui qu'une entité se lève et prend la rue pour des contestations. On a des choses encore plus importantes qui dépassent et le M5 qui dépasse toute entité au Mali. C'est le Mali. Si on dit que nous travaillons tous pour le Mali, qu'est-ce qui nous empêche de s'entendre? Sur le Mali, on doit s'entendre. Quelle que soit la différence, on doit s'entendre.
Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du M5? Qu'est-ce que vous pensez du bilan de la transition?
Malheureusement, pour le M5, j'ai aussi suivi encore d'ailleurs sur votre plateau, des gens qui sont passés ici, qui ont dit que le M5 a échoué, etc., etc.
Vous n'êtes pas d'accord avec eux?
Non, pas du tout. Le M5 n'a pas échoué. Le M5 a vu le jour pourquoi? C'est pour dégager un pouvoir qui était dans la rue, un pouvoir qui ne défendait pas les intérêts du Mali. Ça s'est fait avec l'intervention, bien sûr, des patriotes militaires. Ok, c'est fait. Maintenant, c'est déjà, ça c'est un acquis. Après ça, quand ils sont arrivés au pouvoir, des individus, parce que à titre de rappel, toujours par rapport à ce M5, pour que vous puissiez comprendre un peu, un mouvement composé de plusieurs entités différentes, n'est-ce pas? Chacun avait sa mission, ses objectifs. Il y avait des gens, dans le M5, ils combattaient l'ancien régime tout simplement pour qu'ils quittent et qu'ils puissent le remplacer. Il y avait des groupes qui ont compris que le Mali était vendu, entre guillemets, et qu'il fallait sauver le Mali. Et qu'il fallait avoir un esprit dans la reconstruction du Mali. Il y a ce groupe. Il y a un autre groupe aussi qui était dans la lutte uniquement pour qu'après, qu'il puisse avoir des postes. Okay. Entre guillemets, des postes. Voilà le problème. Okay. Maintenant, après la victoire, ceux qui n'ont pas pu remplacer Ibeka à la Kainala sont partis. Ceux qui n'ont pas eu de place se sont découragés, ceux qui font le bruit sur les plateaux. Et ceux qui sont restés, c'est eux qui avaient une vision pour ce pays qui, déjà depuis le départ, depuis 2018, était dans le combat. Rappelez-vous des marches grandioses qu'on a organisées ici dans le cadre du FSD. On a été gazé ici en 2018 au siège de ADP Maliba, les Soumaïla Cissé à la Kainala, Igor, moi-même et d'autres ont été gazés toute la journée où des responsables ont perdu connaissance au siège de ADP Maliba. Ce n'est pas en 2020 que cette lutte-là a commencé. Donc ces gens-là, ils avaient une conviction. Ces gens-là, ils œuvraient pour la démocratie. Ces gens-là, ils œuvraient pour que le Mali puisse être libre. Okay. Voilà.
Donc sont aux affaires aujourd'hui?
En partie.
Ok.
Oui, en partie.
Et la ligne est toujours claire, défendre le Mali?
La ligne est toujours claire, c'est le Mali. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'on ne peut pas être contre la transition. Les responsables.
Est-ce que vous avez pu observer des erreurs dans la marche de la transition? Puisque souvent vous faites des mémorandums.
Il peut toujours avoir des erreurs.
Quelles sont les erreurs?
Il peut toujours avoir des erreurs parce que au tout départ, quand le premier gouvernement, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale. D'ailleurs, c'est ça qui nous a plongé dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que quand il y a eu le coup d'État, si les jeunes patriotes militaires avaient composé directement avec la tendance, l'aile. M5, on n'en est pas se trouver dans cette situation. Il y a des gens du M5 qui ont vendu le M5, qui ont proposé des premiers ministres, qui ont posé des présidents, et vous avez vu que ça n'a pas marché. Il a fallu la rectification de cette transition en mai 2021, pour qu'on revienne sur des meilleures bases. Et même jusque-là, de mon point de vue, jusqu'à là, les différentes tendances doivent travailler davantage ensemble dans l'intérêt du Mali.
Est-ce que vous avez l'impression que la transition, vous avez parlé de la rectification de la transition, est-ce que vous pensez que cette transition, elle est toujours populaire comme à ses premières heures? Est-ce que vous le pensez?
Il n'y a pas de problème qui empêche que la transition soit populaire. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le pays que la transition, ce n'est pas la faute à la transition. C'est des problèmes que la transition a trouvé, que la transition cherche à régler. Donc, pour quelqu'un qui est convaincu de sa lutte, pour quelqu'un qui est convaincu pour l'intérêt du Mali, ne doit pas renoncer à sa lutte.
La transition prendra fin quand?
La transition prendra, ça je ne saurais te le dire, parce que je ne suis pas aux affaires pour vous dire que la transition va prendre dans 2 ans, dans 3 ans. La dernière fois ici, je vous ai dit que moi, mon souci, ce n'est pas quand la transition va finir. Mon souci, c'est la sécurité, c'est la conquête de l'ensemble du territoire du Mali. C'est ça, moi, mon souci. Mon souci, ce n'est pas les élections. Sincèrement, je tiens toujours à ça. Certes, on sera dans les élections, mais mon souci aujourd'hui, c'est que les militaires, les femmes, continuent la lutte contre le terrorisme afin que tout le pays soit pacifié.
La demande sociale, vous devez aussi répondre à la demande sociale. Hein. La vie est chère, il n'y a pas d'électricité à Bamako, à l'intérieur du pays. Est-ce que ça aussi, qu'est-ce que la transition fait sur ce volet-là?
Il y a des problèmes sociaux, oui. Je n'en disconviens pas. Je l'ai dit ici, là, la dernière fois. Que la transition, l'État, les responsables doivent tout faire pour résoudre le problème
de l'électricité.
Oui.
Parce que sans électricité, pas de développement. Sans électricité, pas d'agriculture. Sans électricité, pas de santé. Sans électricité, pas d'école. Donc ça veut dire quoi? Même sans électricité, pas d'armée. Donc, on doit fournir des efforts inconsidérables pour pouvoir résoudre le problème énergétique. Et je pense que ça se voit qu'ils sont en train de se débattre pour résoudre le problème. Parce que le problème énergétique, c'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent. Supposons qu'on ait même des milliards, des centaines de milliards aujourd'hui. Le problème ne va pas se régler tout de suite. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, il faut la produire. Il faut la transporter. Et tout le monde le sait. Tout le monde connaît l'état des lignes de transport de cette énergie, de cette électricité. Donc, c'est un problème crucial qui demande du temps. Il ne faudrait pas que les gens viennent mentir, dire que si moi je viens, en 3 mois, en 6 mois, je vais résoudre le problème. Non. Mais je pense qu'ils sont en train de travailler pour chercher à trouver la solution.
Les Maliens disent que c'est avec cette transition qu'on a connu ces coupures records, que le Bamako est plongé dans une obscurité. Voilà. Ça, c'est le Malien qui l'a dit.
C'est normal parce que cette transition, quand elle est arrivée, déjà, vous savez, la géopolitique sous-régionale, la géopolitique internationale qui est là pour empêcher à cette transition d'évoluer normalement, c'est ça qui a amené ce problème. Sinon, ce n'est pas parce que nous sommes en transition. Les Maliens disent que c'est parce que la transition ne travaille pas. Ce n'est pas ça. C'est parce que il y a des gens qui nous empêchent d'avoir de l'énergie. Parce que quand leur gars était là, le problème n'allait pas se poser, mais en réalité, le problème s'accumulait, parce qu'ils faisaient leur affaire, ils ne parlaient pas. Mais une fois qu'il y a eu de nouvelles têtes qui ne font pas obligatoirement leur affaire, ils ont profité de l'occasion pour nous punir, parce que c'est une punition.
Oui, vous parlez là de la Côte d'Ivoire, hein, sans
nommer pas seulement. La Côte d'Ivoire.
Pas seulement. Okay.
Pas seulement.
Pas seulement. Vous pensez à qui?
J'ai dit la sous-région et sur le plan international. Il y a des gens qui œuvrent. L'énergie de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est seulement sur le territoire.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour... est-ce qu'il faut privilégier les dialogues avec ce monde-là, avec ces partenaires cités? Est-ce qu'il faut reprendre le dialogue, le fil du dialogue avec eux?
Rappelez-vous que le chef de l'État, le président de la transition... a clairement dit, c'est même inscrit dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, que là où le Mali peut avoir ses intérêts, il ira. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de rupture. Seul celui qui ne veut pas dialoguer avec nous, celui qui ne veut pas dialoguer avec nous, on ne va pas le supplier. On va voir ailleurs.
Ok. Mais toujours sur la question des élections, parce que la transition avait fixé un délai pour aller à des élections. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne pas faire des élections, ça enlève toute légitimité au pouvoir de transition, qui n'est pas issu d'élections?
Vous connaissez déjà ma position par rapport aux élections. Les élections ne font pas qu'on devient, comment on l'appelle, crédible ou bien
légitime.
Légitime, non. Il y a des gens qui passent par les élections qui ne sont pas légitimes. Moi, je pense aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir sont plus légitimes que certains qui ont été élus ici. OK?
Donc, vous basez sur quoi pour le dire?
Hein?
Vous basez sur quoi pour le dire?
Je me base sur le fait que aujourd'hui, si je pose la question dans mon village aux villageois, je pose la question à l'université où je suis, je pose la question dans ma famille, je pose la question dans la rue, je l'ai déjà fait, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Vous avez fait un petit sondage.
La majorité de ces gens-là optent pour cette transition. Donc, je ne vois pas de problème du moment où la majorité de la population a opté pour cette transition. Donc, de mon point de vue, cette transition est légitime. Maintenant.
Mais la meilleure façon de savoir si on a opté pour ça, c'est quand même l'élection. Qu'on a opté pour la transition ou pas, c'est l'élection qui peut le déterminer.
Mais pourquoi on doit se presser à aller dans les élections pendant qu'il y a des pans entiers de l'État, du territoire qui ne sont pas encore sécurisés? Moi, je vous parle, on pense autrement dans une chaumière que dans une villa. Je suis dans une situation et beaucoup d'autres comme moi sont dans cette situation qui fait que aujourd'hui, si on parle d'élection, on ne votera pas. Vous comprenez? Donc, nous, de notre point de vue, la transition doit continuer la pression sur le banditisme pour l'éradiquer au moins à 70 à 80% pour que le maximum de Maliens puisse voter. C'est là qu'on puisse parler de légitimité.
Ça
peut prendre le temps que ça parle. Je vous ai dit, ici, chez moi, il n'y a pas de date pour
les élections. Ça, c'est vous. Mais oui. Est-ce que vous pouvez parler pour les 22 millions de Maliens?
Non, je représente une portion quand même de 22 Maliens. Donc, quand je parle au nom de cette portion.
OK.
Même si c'est 0,0%, 0,1%,
oui.
En tout cas, c'est des Maliens et qui ont leur point de vue. Donc, d'accord. Quand je parle ici, je parle à leur nom.
Okay.
Certes, il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est normal. Peut-être qu'ils ont d'autres visions, d'autres trucs, intérêts, c'est normal. Mais de mon point de vue, c'est comme ça.
Okay.
Donc, travaillons de manière à sécuriser notre pays, travaillons de manière à amener le vivre ensemble, travaillons de manière à ramener la paix entre nous. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra avoir véritablement un président que vous appelez président légitime.
Oui, mais qu'est-ce que vous... Il y a certains qui vous répondront que... Il y a certains qui ne se trouvent même pas à parler. Ils sont nombreux qui parlent aussi de confiscation de pouvoir. Qu'est-ce que vous vous répondez?
Ils ont confisqué quel pouvoir? Ils n'ont pas confisqué de pouvoir. Ils sont venus à la suite, comme on l'appelle, d'une révolution populaire. Ils sont venus, ils ont achevé notre lutte. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont trouvé un pays, vous m'excusez du terme, pourri, qui est fini, qui était dans l'abîme.
Okay.
Mais aujourd'hui, on ne rase plus les murs. Le Malien ne rase plus les murs à l'extérieur. On peut marcher, on peut présenter le passeport aux frontières.
Mais est-ce que ça suffit si le Mali a faim?
Non, tous les pays ont faim. Ah oui, ce n'est pas le Mali seulement. D'ailleurs, je dirais même que le Mali n'a pas faim.
Okay.
Parce qu'on fait trop de bruit au Mali. Vraiment que les Maliens m'excusent, hein. Mais on fait trop de bruit ici.
Okay.
Où il y a des difficultés. Il y a des difficultés. J'ai beaucoup voyagé. Est-ce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe, aux États-Unis.
Okay.
Qu'on ne vienne pas nous dire que le Malien a faim. Le Malien n'a pas faim. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Malien mange trois fois le jour.
Bon, dans la journée. On parle de deux fois maintenant.
Non.
C'est trois jours.
Non.
Ouais.
Ce n'est pas... C'est toujours, sinon même plus. Parce que si tu arrives chez moi à la maison, tu vas manger.
Okay.
Ailleurs,
okay.
Ça ne se passe pas ici.
Okay. Ouais, on va manger, mais sauf qu'on dit que les trois plats, le Mali n'arrive plus à avoir les trois plats.
Oui, il faut aussi se conformer. Il faut se conformer aux réalités de l'heure.
Okay. Donc pour vous, c'est des sacrifices que le Malien doit faire, doit consentir.
Mais on doit continuellement. Tout citoyen doit continuellement consentir des sacrifices. Surtout dans un pays où les gens ne travaillent même pas.
Oui, mais au même moment, les gens disent que le train de vie de l'État n'a pas baissé.
Oui, si...
Dans un pays en crise.
Oui, c'est le rôle, bien sûr, de la société civile. C'est le rôle aussi de Malien, ils n'ont qu'à sortir le dire.
Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas sortir parce que s'ils sortent...
Non, quand je dis sortir le dire, il ne s'agit pas d'aller dans la rue pour aller contester. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça. Je crois bien que la porte du président, la porte du président du CNT, la porte du premier ministre sont ouvertes à tout le monde. Ceux qui ont des propositions concrètes, qu'ils aillent faire ces propositions-là.
De ne pas critiquer.
Non, en critiquant. Je ne dis pas de ne pas critiquer. Faites des propositions, qu'ils fassent des
Qu'est-ce
propositions.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que nous sommes presque dans une dictature? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez?
Dictature.
Certains le disent ici.
Mais est-ce que si c'est la dictature, moi je viens parler. Si c'est la dictature là, parce que vous aussi, on vous considère comme un organe d'opposition au Mali.
Ah bon?
Ah oui, c'est ça qu'on dit en ville. Si c'est de la dictature, on viendra vous fermer. Donc, c'est le... vous m'excusez. Mais...
Oui. Non, on donne juste l'info.
Oui, vous donnez. Oui, je suis d'accord.
Que l'info souvent dérange.
Non, je suis d'accord.
Que l'info ne peut pas plaire. Voilà.
Je suis d'accord que vous donnez l'information et je suis très content pour ça.
Okay.
Mais j'ai dit que d'autres me disent.
Ok.
Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour vous dire
qu'ils
ne sont pas encore. C'est pas ça la dictature.
Donc,
c'est pas
vous, ça la dictature. La diversité des opinions, elle est garantie aujourd'hui au Mali.
Oui, on peut dire ce que nous pensons.
D'accord.
Rentrer dans les, comme on l'appelle, comme on le dit, dans les 18 de quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on est.
Et
d'ailleurs, ça continue. Parce que les gens continuent
oui.
à manquer du respect à des responsables dans ces pays, sur les réseaux sociaux.
Donc, vous
sur les réseaux sociaux.
Vous interpellez la justice à ce niveau-là.
Ah oui, la justice doit sévir.
Okay.
doit servir, par exemple, le
président. Est-ce que vous êtes content
par exemple, le président
de la distribution de la justice, est-ce que vous êtes content de la façon dont la justice aujourd'hui travaille au Mali?
Vous savez, de mon point de vue, le Mali a trois problèmes. Okay. Trois problèmes. Le premier problème, c'est le travail. On ne travaille pas. Deuxième problème, nous sommes indisciplinés. Troisième problème, l'injustice. Donc, ça répond à votre question. C'est pour vous dire...
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est-à-dire ces trois, voilà, parce que vous dites que le premier problème, c'est-à-dire le Mali ne travaille pas, le deuxième problème, l'indiscipline, et le troisième problème, l'injustice. Donc, il n'y a pas de justice. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous dites que le Mali ne travaille pas, pourquoi vous parlez de... Est-ce que vous pouvez donner, voilà, est-ce que vous pouvez argumenter?
Quand je dis que le Mali ne travaille pas, nous venons de sortir d'une fête, n'est-ce pas? Et ça vaut maintenant 10 jours que l'administration ne travaille pas. Les gens sont partis. Ils ne sont pas à leur lieu de travail. Jusqu'à la fin de cette semaine, ça veut dire une semaine. Les lundis, ils vont revenir, ils vont faire 3 jours de salutation entre bureaux.
Okay.
C'est là, je vous m'excuse, mais c'est la réalité. À rare le Malien qui se trouve sur son lieu de travail à 7h30. Moi, je parle de la fonction publique. Je ne parle pas du privé. Je parle de la fonction. Parce que le problème principal du Mali aussi, c'est la fonction publique. À rare le Malien qui arrive à 7h30 à son lieu de travail et faire son travail entre 7h30 et 16h. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le Malien ne travaille pas. Et personne ne peut dire le contraire.
D'accord.
Vous le savez. Vous, les journalistes, vous le savez mieux que moi.
Okay.
Alors,
okay. L'indiscipline.
Ouais. L'indiscipline.
Oui.
On ne respecte rien.
Okay.
Il suffit tout simplement, le matin à 7h, de prendre son carnet et s'asseoir au bord de n'importe quel goudron route le matin et contempler, regarder la circulation. Vous saurez que nous sommes dans un pays où personne ne respecte personne. Ça, c'est un danger. Depuis un certain temps, si vous avez remarqué en ville, il n'y a plus de sens interdit. Les gens voient la plaque, mais les motocyclistes, les voitures circulent en sens interdit, tout droit, sur celui qui a la priorité. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est un petit échantillon de l'indiscipline du Malien. Il est hautain. Il pense que tu lui fais des remarques, il t'insulte. Donc ça, c'est un problème, hein, parce que c'est un problème d'éducation. Donc on a failli aussi sur ce problème. C'est pour cela qu'on parle de refondation du pays.
Okay.
Le troisième, le problème principal, c'est l'injustice. Au Mali, dans la plupart du temps, si vous êtes devant le juge, en tout cas, ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, ils sont tous comme ça. Hein. De manière générale, j'ai remarqué que les populations du Mali se plaignent beaucoup de notre justice. Ils ont peur de la justice. On ne doit pas avoir peur de la justice. Notre souhait, quand deux parties se présentent devant un juge, qu'ils sortent que celui qui a gagné, sache qu'il a gagné, et celui qui a perdu, qu'il reconnaisse qu'il a perdu. Mais malheureusement, dans certains cas, celui qui ne devrait pas gagner, c'est celui qui gagne. Et ça, ça crée des frustrations. Ça crée de l'injustice. À titre d'exemple, à partir de 2009, si vous vous rappelez, au Mali, il y a eu le renouvellement des chefs de village. Il y a eu beaucoup de chefs de village qui sont décédés. Sur 10 ans, 15 ans, il n'y a pas eu de changement. En 2009, l'État a décidé de les changer, de les remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, au nord, que je connais chez moi, des villages inquiets, les politiciens, l'administration, la justice, se sont mêlés du sort de ces villages pour imposer des nouveaux chefs de village qui, par le passé, ni de Hève, ni d'Adam, n'ont connu la chefferie. Ça a créé des problèmes sérieux dans ces villages. Jusqu'aujourd'hui, il y a des villages où il y a deux chefs de village, deux imams et des conseillers de part et d'autre. Ça, ça a contribué à détruire l'architecture traditionnelle de notre société. Et c'est un problème fondamental. L'État doit penser à ça et chercher des solutions. Quand vous trouvez dans un village, c'est comme ça, restez comme ça. Mais pas pour des raisons politiques, où c'est le politique qui impose le chef de village et il ordonne à l'administrateur de faire sortir des décisions au nom de ses adhérents. Donc, comme ça, on ne peut pas construire un pays.
Ça crée des frustrations sociales, voilà. N'est-ce pas? Ça peut conduire aussi à des conflits.
Intercommunautaire.
Oui, on va parler du Burkina Faso. On parlait de confusion autour du pouvoir d'Ibrahim Traoré depuis le mercredi. Après, il fait une réapparition, on le voit. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'Ibrahim Traoré a récupéré la chose?
Non, il a...
Ou il ne l'a jamais perdu?
Je crois qu'il ne l'a jamais perdu, parce que ce matin, il était président du conseil de ministres. Si tu es un conseil de ministres, ça veut dire que tu es toujours président. Alors, moi, je crois que, bon, peut-être que je ne connais pas le problème, mais de fond, peut-être que c'est des incompréhensions. Donc, il a cherché, de mon point de vue, à voir clair dans son entourage, dans le pays, si réellement il y a des gens qui étaient avec eux au niveau de la hiérarchie ou pas. Et durant ces trois jours, il a compris ceux qui étaient avec lui et ceux qui n'étaient pas avec lui. Et je crois bien qu'il a pu trouver une solution et il a mis en état de, comment on l'appelle,
hors d'état de nuire.
Hors d'état de nuire, voilà, merci pour le mot.
Oui.
Hors d'état de nuire, tous ces gens-là qui voulaient le changement.
Mais est-ce que vous pensez qu'il soit fragilisé ou bien il soit renforcé?
Alors ça, c'est dans quelques jours qu'on saura s'il sera renforcé ou pas.
Okay.
Parce que tout de suite, donner des explications par rapport à ça, ça c'est pour vraiment parler inutilement.
Okay.
Vraiment, je ne saurais dire s'il sera...
Okay. Mais vous l'aimez bien, hein, le président?
Ah oui, non, moi, du Faso, non, c'est pas que je l'aime.
Vous êtes de l'AIS, d'après mes informations, vous respirez l'AIS.
Non, ce n'est pas que je l'aime. Je vais dire tout simplement, que ce soit là-bas, au Burkina, que ce soit ici au Mali, que ce soit au Niger, j'invite les populations à éviter les coups d'État. Ça, un autre coup d'État dans notre espace va nous anéantir. Les trois pays là, c'est comme le socle de la cuisine où il y a les trois pierres. Si vous déposez la marmite sur les trois pierres, vous retirez une pierre, la marmite tombe. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, j'invite nos populations, j'invite nos militaires à réfléchir dans l'intérêt de leur pays. Le coup d'État n'est pas la solution. Quels que soient les problèmes, mettons-nous autour d'une table et tout le monde, mettons-nous autour de toutes les sensibilités pour échanger des problèmes du pays et trouver des solutions.
Okay.
C'est comme ça que je vois la chose.
Donc pour vous, plus jamais de coup d'État?
Non, plus jamais de coup d'État, sincèrement parlé.
Okay.
Ça ne sert à rien.
Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez? Que ces militaires au pouvoir restent au pouvoir aussi longtemps qu'ils veulent juste après, voilà.
Mais les militaires,
quelle est l'alternative?
Mais les militaires là, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Nigériens. Ce n'est pas des étrangers. Mais ils ont le droit d'être président, ils ont le droit d'être au pouvoir. Messieurs les journalistes, ailleurs, l'armée n'est pas directement à la présidence, mais l'armée est au pouvoir. Quand ça ne va pas ailleurs, là, l'armée réglemente la chose. Un pays qui n'a pas une armée forte, républicaine, disciplinée, bien formée, est amené à disparaître. Donc c'est pour cela que, en tout cas, aujourd'hui, de mon point de vue, laissons ces patriotes travailler, laissons-les réfléchir pour la refondation de notre pays, laissons-les organiser, et comme on appelle les élections, selon leur calendrier.
Même s'ils font des abus?
Non, on va toujours continuer à les critiquer s'ils font des abus. Mais s'ils font des abus, Donc, vous, selon vous, la solution, c'est quoi? C'est faire un coup d'état et dégager?
Non, je vous pose une question. Je n'ai pas dit. Je vous pose une question.
Abdullah, même celui qui est élu peut faire des abus. Okay. Ce n'est pas l'élection qui va faire que la personne ne va pas faire des abus. Vous connaissez le pouvoir, mais quand on a le pouvoir, souvent ça monte dans la tête, on peut faire des erreurs. Ça arrive partout.
D'accord. Donc pour vous, ces présidents doivent rester ad vitam aeternam.
Non. J'ai dit qu'ils doivent rester à préparer des élections claires et nettes, que ce soit eux qui seront au pouvoir ou bien peut-être
mais pas encore de coup d'État pour vous.
Alors. Non, pas de coup d'État.
Oui, docteur Boubacar Abdou Touré, on est pratiquement à la fin de l'émission, ou même à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliens, hein, vos militants qui nous regardent ce soir, un message pour la transition, c'est quoi le message?
Bon, les militants sont en stand-by, hein, okay. Parce que on nous a dit...
Est-ce qu'ils vont apprécier à ce que vous les mettez en stand-by? Ok, mais ils vont comprendre.
Ouais, ils sont en stand-by, on a dit de ne plus parler de politique officiellement, on respecte le décret, même si on n'est pas tellement d'accord avec ce qui a été décidé, parce que nous suspendre nos partis, là, nous, on n'a pas violé la charte des partis politiques, on n'a pas violé la constitution, nous estimons qu'en tout cas que nous travaillons dans l'intérêt du Mali, nous suspendre avec les autres qui faisaient du bruit, vraiment, je crois que c'est juste de mon point de vue. Okay. Voilà, parce qu'on respecte tout ce qui doit être respecté dans ce pays. En tout cas, nous sommes dans cette voie-là. Okay. Alors, moi, ce que j'ai à dire au peuple malien, à tout le monde, que ça soit militaire, que ça soit politique, que ça soit des sociétés civiles, le Malien lambda, il est temps qu'on cesse nos querelles personnelles. Le Mali n'a pas besoin de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans une situation critique sur le plan économique. Si on ne fait pas attention, on va disparaître. Ne prêtons pas le flanc à nos ennemis. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos contradictions, dans l'intérêt du Mali, on doit s'asseoir et parler. Mais se figer sur une personne, comme beaucoup de gens le font, moi je pense que vraiment ce n'est pas responsable. Aujourd'hui, on doit dépasser, même les querelles au sein du M5, tout ça, là, on doit dépasser tout ça dans l'intérêt du Mali. Parce que, en tout cas chez nous au M5, tout le monde connaît l'esprit, on veut une refondation, mais malheureusement il y a des gens qui ne veulent pas ça, ils veulent rester toujours dans le même système de facilité, de vol, de pillage, de deniers publics. Et là, nous sommes contre. Okay. Voilà. Donc, j'invite les Maliens à se donner la main, à éviter les problèmes personnels entre personnes et de s'occuper de notre nation, de s'occuper de notre pays pour qu'on puisse vivre ensemble dans la paix, dans la sécurité et dans la dignité.
Merci, docteur Boubacar Abdou Touré. C'est un plaisir de partager cet entretien avec vous.
C'est vous c'est moi qui vous remercie.
Quand vous le voulez, vous êtes chez vous. N'hésitez pas à venir. Quand vous le souhaitez, alors vous êtes chez vous.
Okay. Donc, avant de sortir du truc, vraiment, je présente mes excuses à l'ensemble du peuple.
Oui, le débat, il est libre et démocratique. Il est libre et démocratique. Il n'y a pas de censure ici.
Des choses qui ne plaisent pas à d'autres personnes, mais qui nous excusent.
D'accord. C'est culturel, on m'a dit. On demande toujours pardon. Merci, vous êtes président du mouvement social pour le renouveau MSR. Merci. Cette émission, madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi 00. Donc, je rappelle les heures de rediffusion. Demain à 10h et le samedi à midi. Au revoir. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. L'information à du soir, c'est l'interpellation de plusieurs cadres de partis politiques au domicile de Moustapha Dicko. Moustapha Dicko de l'ADEMA. Donc, c'est ça l'information du soir. On va suivre cette information, l'évolution, qu'est-ce qu'on les reproche, et puis on fera une édition spéciale sur le sujet. Mesdames, messieurs, au revoir et à jeudi prochain pour votre émission En toute liberté. Au revoir.
liberté.